Je vous salue tous, vous qui êtes proches, près, et vous qui êtes lointains. Voilà, nous avons le privilège d'être ensemble ici. C'est quand même un plaisir et un privilège de voir quelques personnes en chair et en os, n'est-ce pas? Voilà. Alors, est-ce que vous savez que nous vivons des temps palpitants? Alors, d'un côté, des temps très difficiles, pandémie, COVID-19, etc. Et d'autre part, nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire dans ce monde. Dieu agit. Et nous venons de chanter au fond, le dernier chant, c'est le programme des Actes des Apôtres. Alors, je pense que vous êtes tous dans ce livre magnifique et que vous bénéficiez de ce que vous êtes en train de lire et de ce que votre pasteur a préparé aussi comme méditation avec les différentes questions. Alors, ce matin, je voudrais faire avec vous une lecture dans le chapitre 7. Nous lisons juste les deux derniers versets. Alors, il me semble qu'il y a, voilà. Et nous allons lire, donc, ce n'est pas 58, mais c'est 59 et 60. Et puis, nous poursuivrons la lecture jusqu'au verset 8 du chapitre 8. Alors, vous allez trouver notre texte en acte 7. Tout le monde prend le temps de chercher le livre, 5e livre du Nouveau Testament. Et là, nous allons faire la lecture. Je lis à partir du verset 59. Étienne vient de terminer son discours, ou du moins donc on l'a interrompu pour ainsi dire, et maintenant donc on est en train de le lapider. Alors nous lisons verset 59. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Là, il copie sur son maître Jésus, qui à la croix a formulé une prière semblable. Et après ces paroles, il s'endormit. Chapitre 8, le verset 1er, Saul, qui deviendra plus tard Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, ou d'après d'autres versions, dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et le résultat de tout cela, il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Alors, je vous demande de garder votre Bible ouverte puisque nous allons parcourir ensemble ce magnifique passage. Il y a des années, lorsque j'ai fait la connaissance de T.L. Osborne, mon épouse et moi, nous avons même travaillé un peu pour lui, un évangéliste américain qui organisait pendant des décennies d'immenses campagnes d'évangélisation. Entre autres, en 1958, ça remonte, il était aux Pays-Bas, où il avait entre 100 et 150 000 personnes dans chaque réunion. Et la particularité de ces croisades d'évangélisation, c'est que la prédication de ce serviteur de Dieu était accompagnée de miracles, prodiges, guérisons, délivrances. Alors, il a écrit un livre qui est intitulé « Trois clés pour le livre des Actes ». Parce que ce serviteur de Dieu, il s'est posé la question, comment cela se faisait-il que dans le livre des Actes, il y avait tous ces prodiges, ces miracles, ces guérisons? Et il en a trouvé trois clés que nous allons afficher. Tout d'abord, la parole de Dieu. Les apôtres, les chrétiens proclamaient la parole de Dieu, notamment l'évangile, la bonne nouvelle. Deuxièmement, ils agissaient au nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus est une deuxième clé qui ouvre des portes fermées. Et puis, nous avons bien sûr le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, puisque Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais je voudrais ajouter une quatrième clé, c'est-à-dire la prière. Parce que nous voyons à travers ces 28 chapitres, la prière qui occupait une place importante pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Moi, je voudrais dire, frères et sœurs, puisque le grand thème de ce mois, c'est l'Église continue. Je dirais que si nous voulons que l'Église continue, et si elle continue de la même façon qu'elle a débuté, eh bien, nous avons besoin de ces quatre clés. Nous aussi, nous voulons annoncer la parole, la bonne nouvelle. Nous voulons agir au nom de Jésus et nous voulons être remplis du Saint-Esprit et arroser ce que nous faisons par la prière. Alors, je propose un titre pour notre message ce matin, une Église qui continue contre vents et marées. Parce qu'évidemment, nous constatons donc qu'effectivement, il y a vents et marées. Donc, vous constatez cela rapidement. Et puis, nous allons développer trois points successifs, c'est-à-dire, tout d'abord, un thème qui ne semble pas très attrayant, donc l'Église appelée à souffrir. Dans un deuxième temps, quand Dieu se sert de la stratégie de l'ennemi pour accomplir son plan, son dessein, son plan. Et troisièmement, une visite chez des voisins antipathiques. Alors, on commence avec l'Église appelée à souffrir. Votre pasteur, il m'a donné la possibilité de choisir mon texte entre les chapitres 7 et 12. Donc, 6 chapitres où je pourrais choisir mon texte. Et vous savez, en parcourant ces 6 chapitres, je me suis rendu compte d'un phénomène intéressant et tragique à la fois. Parce que la fin du chapitre 7 se termine par un martyr. Nous avons là le premier martyr dans la personne d'Étienne. Et d'autre part, le 12e chapitre commence également par un martyr, celui de Jacques, le frère de Jean, c'est-à-dire un des 12 apôtres. Et nous constatons donc que le premier des 12 apôtres à subir un martyr, c'était Jacques. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés ici à un fait inconfortable, mais important, c'est que l'Église de Jésus-Christ, c'est une institution appelée à la souffrance. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a dit « vous serez mes témoins », on utilise ici en grec le mot « martyros », qui veut dire, donc d'où nous avons notre mot « martyr ». Au fond, donc, quand nous disons « un témoin », nous disons un martyr, et un martyr, c'est quelqu'un qui meurt pour ses convictions, qui meurt pour sa foi, qui meurt pour l'amour de son Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous devons nous poser la question, est-ce que nous voulons être ce genre de témoin qui est prêt à sceller sa foi, confirmer sa foi, éventuellement, s'il le faut, par notre vie? Alors, vous savez, nous ne devons pas nous voiler la face, c'est qu'en tant que chrétiens, nous risquons tôt ou tard de souffrir d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait déjà fait comprendre au jeune Timothée, son jeune protégé, quand il a dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Alors, je sais que ça, c'est une promesse que les chrétiens ne veulent pas réclamer rapidement, n'est-ce pas? Parce que c'est plutôt négatif à nos oreilles et à nos yeux, donc, de devoir souffrir pour le nom du Seigneur. Mais je dois dire que pour le moment, les choses sont plutôt calmes, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup à souffrir actuellement dans le monde occidental. Je voudrais bien donc souligner cela. Alors, bien sûr qu'il y a au moins une cinquantaine de pays, d'après l'index de portes ouvertes, où la persécution peut être très, très sévère. Et frères et sœurs, je pense maintenant donc à l'Afghanistan. Vous savez, cette liberté dont nous jouissons encore actuellement pourrait rapidement prendre fin. Les Afghans, je pense, en grande mesure, n'étaient pas prêts pour le retour des talibans. Et un retour donc fulgurant, un retour vite. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a envoyé ses 12, pendant son ministère encore, c'était un voyage de formation, il leur a dit, « Ceci, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Alors vous comprenez cette métaphore, n'est-ce pas? Elle est très, très éloquente et cela montre tout simplement les dangers auxquels le chrétien qui veut vivre pieusement pour le Seigneur et qui veut être un témoin, les dangers auxquels il est exposé. Nous avons un dicton du frère André de Portes Ouvertes. Vous savez, il disait toujours ceci, « Jésus nous a dit d'aller, il ne nous a pas dit de revenir. Hein, » Donc, j'aime beaucoup cette expression. Autrement dit, nous devons être prêts à aller, mais ne comptons pas nécessairement de pouvoir aussi revenir. Alors, ce que je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez remarqué quelque chose en parcourant le livre des Actes des Apôtres? Est-ce que vous avez constaté que dès le 4e chapitre déjà, l'Église est attaquée? Alors nous avons bien sûr tout d'abord les apôtres avant que l'Église dans sa totalité soit persécutée, mais donc la lune de miel spirituelle, la première euphorie de cette jeune Église qui voit des prodiges, des miracles, une croissance phénoménale, eh bien cela est vite dérangé, si je peux le dire ainsi, par la persécution. Et ce n'est pas étonnant parce que le Seigneur Jésus nous a prévenu. Il a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Et quand nous disons tribulation, eh bien donc cela inclut bien sûr et nécessairement la persécution. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jean était le seul des 12 apôtres qui meurt d'une mort naturelle? Il est mort dans son lit. Mais il faut ajouter tout de suite qu'il lui aussi l'a souffert. Et donc la tradition nous dit qu'il a été jeté dans de l'huile bouillante, mais qu'il a survécu. Et puis bien sûr, nous savons qu'il a fait un séjour sur l'île de Patmos, et ce n'était pas des vacances à la plage, je vous le garantis. C'était une punition. Alors, les 11 autres ont tous fini par le martyre. J'ai ici la liste. Jacques, donc, a été décapité. Matthieu, il a été tué avec l'épée dans une ville de l'Éthiopie. Marc a été traîné dans les rues de l'Alexandrie jusqu'à ce qu'il meure. Luc a été pendu à un olivier en Grèce. Jacques le mineur a été jeté du haut du temple. Philippe a été suspendu contre un pilier en Phrygie. Barthélemy a été écorché vif. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? André, flagellé, puis attaché à une croix, d'où il a continué à prêcher jusqu'à ce qu'il meure. Jude, exécuté à l'aide de flèches. Thomas, transpercé par une lance. Simon, le zélote, crucifié. Pierre, crucifié, la tête en bas. Et Matthias, lapidé et décapité. Alors, je n'ai pas choisi cette liste pour vous décourager ou pour vous effrayer, mais tout simplement pour vous confronter à la réalité. Mon premier point, c'est l'Église, une institution de Jésus-Christ appelée à souffrir. Voilà, et ça, c'est un fait que nous n'aimons pas entendre, n'est-ce pas? Alors, d'ailleurs, cette longue liste que je viens de citer me rappelle une déclaration de Tertullien, qui était un père de l'Église. C'est de Tertullien que nous avons cette expression « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». Et vous savez, d'après les statistiques, pendant les 20 siècles que dure le christianisme, il y a eu quelque 40 millions de martyrs. D'hommes, femmes et enfants qui ont scellé leur foi en Jésus-Christ par leur mort de martyr. Et la particularité, frères et sœurs, c'est que dans le seul 20e siècle, il y a eu environ 26 millions de martyrs. Autrement dit, dans ce siècle écoulé, il y a eu plus de martyrs que dans les 19 siècles précédents. Ce qui veut dire qu'au lieu que cela diminue, ça augmente. Et nous sommes entrés dans notre 21e siècle qui est déjà scellé par de nombreuses victimes. Ces tristes faits me conduisent à notre point suivant. Voilà. Alors, donc, vous avez ici la déclaration de Tertullien et les sources donc, qui nous disent que quelques 40 millions de victimes donc, ont donné leur vie pour le Seigneur Jésus, pour leur foi. Alors, nous allons voir maintenant, deuxième point, c'est-à-dire quand Dieu se sert de la stratégie du malin pour accomplir son plan. Lorsque vous lisez le début du chapitre 8, eh bien, il nous informe que le meurtre d'Étienne a pour ainsi dire déclenché une violente persécution. C'est comme si les forces du mal ont été libérées et donc on s'acharne maintenant contre l'Église de Jésus-Christ. Et ceci, c'est en conformité avec ce que le Seigneur Jésus avait dit. Il a dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et c'est donc ici les forces des ténèbres qui s'acharnent sur la jeune Église. Alors, vous avez comme résultat, l'Église est dispersée. Et je voudrais que vous souligniez dans la mesure du possible ce mot dispersé dans votre Bible, parce que ce mot est important. Alors, à l'exception des apôtres, la plupart des chrétiens sont dispersés et ils se servent de refuge de la Judée et de la Samarie. Maintenant, je dirais ceci, mes frères et mes sœurs. Un lecteur superficiel passera probablement à côté d'un fait important. Est-ce que vous savez, quand vous réfléchissez, que maintenant, les chrétiens se trouvent là où le Seigneur voulait qu'ils soient? Parce que le Seigneur n'avait pas seulement dit Jérusalem, il avait aussi dit toute la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Ça, c'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 8, ce que votre pasteur a souligné dimanche dernier, n'est-ce pas? Et vous devez savoir que dans ce verset 8 du chapitre 1, vous avez le verset clé des apôtres, des Actes des apôtres. Autrement dit, c'est le verset qui détermine, pour ainsi dire, la suite. C'est l'itinéraire que le Seigneur Jésus a donné à ses apôtres, à son Église, et que nous devons donc suivre. Tout d'abord Jérusalem, ensuite toute la Judée, la Samarie, et puis nous avons les extrémités de la terre. Frères et sœurs, quand vous lisez les premiers chapitres des Actes des apôtres, on pourrait presque dire que l'Église se sentait un peu comme dans un nid confortable et chouette. Et elle avait besoin d'être jetée dehors. Elle avait besoin d'être rappelée qu'il ne fallait pas rester seulement à Jérusalem, mais qu'il y avait également la Judée, la Samarie et puis les extrémités de la terre à évangéliser. Et ainsi donc, le Seigneur, il se sert de la stratégie du malin qui lui voulait éteindre l'Église pour pousser son peuple en avant et pour exécuter le grand mandat. Alors nous devons vraiment insister là-dessus. Et frères et sœurs, nous devons reconnaître que notre Dieu a cette facilité de transformer un fait négatif en quelque chose de positif, en une grâce, en une bénédiction, en une victoire, en un avantage, un privilège. Et je voudrais vous donner un autre exemple biblique. Vous avez 2 Chroniques, chapitre 20, où le roi Josaphat et son petit royaume de Juda sont attaqués par une coalition de 3 rois. La petite Jude, donc le royaume, il est menacé, son avenir est incertain. Évidemment, donc il crie à l'Éternel qui intervient. Et qu'est-ce que nous voyons? L'intention de l'ennemi d'écraser ce petit royaume, d'en prendre possession, échoue. Et finalement, nous assistons à une bénédiction sous forme de 3 jours de pillage du camp de l'ennemi. Autrement dit, le Seigneur retourne tout et il se sert de la stratégie de l'ennemi pour ses avantages. Et c'est exactement ce que nous trouvons donc aussi dans notre chapitre 8 des Actes. Alors, notre texte nous apprend que Satan essaie d'écraser l'Église et le Seigneur retourne les circonstances et les rachète à son avantage. Et frères et sœurs, ce n'est pas l'unique cas. Je voudrais vous en donner un autre exemple que vous trouvez dans le deuxième livre de votre Bible, c'est-à-dire dans l'Exode, où tout au début, Pharaon et les Égyptiens constatent la croissance phénoménale et inquiétante d'Israël. Alors, ils veulent freiner cela, ils veulent éteindre cela, exactement comme dans notre chapitre 8. Et nous lisons au chapitre 1er de l'Exode, « On établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. » C'est-à-dire la stratégie de l'ennemi échoue. Et au fond, cette stratégie permet au peuple de Dieu de grandir encore, de s'accroître, de se multiplier encore. Et cela me fait penser à un événement qui a eu lieu il y a quelques décennies. Je me souviens de cela, ce témoignage m'est resté. Ça se passe dans les années où il y avait le rideau de fer, où il y avait le communisme qui dominait les pays de l'Europe de l'Est, et un groupe de chrétiens néerlandais s'était réuni pour intercéder en faveur des chrétiens persécutés. Et pendant cette réunion de prière, Dieu a accordé à un des assistants une vision. Dans cette vision, on a vu un feu. Et ce feu représentait l'Église de Jésus-Christ. Et puis, cette personne a vu un pied dans une botte, vous savez, comme les bottes que portaient les soldats soviétiques et les soldats est-allemands. Ce pied, donc, dans une botte, a essayé d'écraser le feu, de l'éteindre, donc tout simplement de mettre un terme à l'Église de Jésus-Christ. Mais au lieu d'éteindre ce feu, il y a eu des dizaines d'étincelles qui ont sauté et qui ont allumé d'autres feux. Autrement dit, une nouvelle fois, nous voyons la stratégie de l'ennemi qui a échoué et Dieu se sert d'un fait négatif pour le transformer en avantage, une victoire, une bénédiction. Mais je voudrais que maintenant tu fasses une application à ta propre situation. Parce qu'il se peut que tu sois ici ce matin ou là chez toi et tu fais face à l'opposition de l'ennemi, tu fais face à une forme de persécution, tu vois l'ennemi qui s'acharne contre toi. Je voudrais que maintenant tu te souviennes des faits que nous venons de citer et que tu proclames que ton Dieu est puissant pour inverser le cours des circonstances et pour transformer une attaque de l'ennemi en une victoire et un moyen de grandir dans le Seigneur. De toute façon, nous constatons que Dieu a permis cette persécution et il s'en est servi pour faire bouger son Église, pour qu'elle avance et pour que l'Église continue. Alors, je voudrais encore une fois revenir sur le verbe disperser. C'est pourquoi je vous ai dit souligner le mot. Parce que, donc, d'un côté, c'était quand même quelque chose de positif finalement, puisque le Seigneur, il s'en est servi pour évangéliser la Judée et la Samarie grâce à cette persécution. Mais d'autre part, il y a quand même un fait négatif, c'est que l'ennemi essaie de déteindre l'Église en dispersant les chrétiens. Et je voudrais que vous teniez compte des faits suivants, que vous lisez le chapitre 2 et les chapitres suivants. Tout d'abord, la Bible nous dit que la jeune Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Alors, je voudrais surtout insister sur le deuxième pilier. La première Église persistait dans la communion fraternelle. Ensuite, la Bible dit qu'ils étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour ensemble dans le temple. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Autrement dit, c'était une communauté unie, homogène, soudée. Une communauté qui vivait la communion fraternelle de la façon la plus belle qui soit. Alors, et c'est cette communion, cette unité que l'ennemi veut perturber. C'est-à-dire, il veut disperser le peuple de Dieu. Et frères et sœurs, il fait encore la même chose aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'Église, nous devons veiller sur l'unité. Est-ce que vous êtes conscient, bien-aimé, qu'on peut être dans la même salle et dispersé? Vous savez, on disperse quand on commence à critiquer les uns les autres, à calomnier l'un et l'autre. Dans ce cas-là, l'unité éclate et nous sommes dispersés. Mais cette question de dispersion, je voudrais la voir encore à la lumière de la pandémie actuelle. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé des questions. Quelle est la signification de cette pandémie COVID-19? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif finalement? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire à travers cette pandémie? Et je pense qu'il y a à la fois quelque chose de négatif et quelque chose de positif. Alors, le côté positif, c'est que Dieu peut se servir de cette pandémie pour réveiller des gens, pour leur faire comprendre que notre vie est fragile, qu'elle est courte, qu'elle peut être arrêtée à n'importe quel moment. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que nous voyons l'Église, partiellement du moins, dispersée. Les temples sont fermés. Les gens sont obligés de suivre un culte par Zoom. Et malheureusement, les prédictions d'un spécialiste en ecclésiologie se sont avérées vraies. Lui, il avait annoncé que 20% des chrétiens ne retourneraient plus à l'église. Et je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui déplorent le départ de chrétiens, la dispersion. Nous avons aujourd'hui ce que Samuel Petrovich a appelé les chrétiens pyjama. On reste chez soi. On n'a même pas besoin de s'habiller. On reste encore dans son peignoir ou dans son pyjama. On suit le culte avec une tasse de café. Un chrétien a écrit un titre, Adorer Dieu avec une tasse de café. Et puis, nous avons un autre phénomène, nous avons des chrétiens zappeurs. Les chrétiens qui restent à la maison, et puis on zappe, on cherche les meilleurs programmes, les meilleurs buts, n'est-ce pas? Et on se détache graduellement de sa propre église. Et c'est pourquoi je suis content pour chacun qui suit ce culte par Zoom ou donc en présentiel. Samedi dernier, quand j'ai fait ma marche, j'ai rencontré un gentil frère. Il était en train de promener son chien, on se croise de temps à autre. Et je lui ai dit, alors demain, où est-ce que tu seras au culte? Alors il a cité une église qui fait encore le culte en présentiel, mais il a ajouté, où je reste à la maison et je cherche un programme. Et je me suis dit, chrétien zappeur. Voilà, alors, puis donc, bien sûr, il y a encore la question du vaccin qui risque de diviser les chrétiens, c'est pourquoi ne jugeons personne, que ce soit pour ou contre le vaccin, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas nous disperser. Mais je reviens à cette dispersion. Alors la Bible dit que tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Cela veut dire que maintenant, il y avait une armée de chrétiens qui étaient là, dans la Judée et dans la Samarie, et qui était en train de répondre la parole de Dieu par ce qu'ils disaient. Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Autrement dit, l'Église a continué, même tout en étant dispersée, en répandant la bonne nouvelle. Et ainsi donc, ces chrétiens ont été transformés en évangélistes, en ambassadeurs de Christ, en témoins, en gagneurs d'âmes. Exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Et frères et sœurs, l'application n'est pas difficile. Nous aussi, nous sommes appelés à faire le travail d'évangéliste, à être un témoin du Seigneur, un gagneur d'âme, un ambassadeur pour Christ. Est-ce que vous avez déjà goûté à la joie d'amener une âme au Seigneur? Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage, copiez sur les chrétiens de la première église qui ont été dispersés. Utilisez les possibilités. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, chaque chrétien devient donc, il a dit plutôt ceci, en bas. Chaque âme avec Christ est un missionnaire, chaque âme sans Christ est un champ de mission. Alors, nous sommes ce matin soit l'un, soit l'autre. Si Jésus est votre sauveur, vous êtes un missionnaire. Et si Jésus n'est pas encore votre sauveur, en ce cas-là, vous êtes un champ de mission. Alors, personnellement, je rachète les occasions. Tout à l'heure, j'attends la visite d'un David. C'est un péqué, certainement. Il prépare son doctorat. Il est venu il y a 15 jours. On me l'a envoyé parce que sa thèse est d'ordre religieux et il va aussi parler sur le pancrétisme. Alors, on me l'a envoyé. Et j'ai découvert, je lui ai posé la question, vous êtes chrétien? Oui. Chrétien évangélique? Non. Donc, alors, j'ai compris. Catholique. Pratiquant? Oui. Et vous savez, une fois qu'il avait terminé son interview, qu'il a posé ses questions, moi, je lui ai posé des questions. Et j'ai découvert un homme dont le cœur était ouvert, réceptif. Et j'ai eu la joie de l'amener au Seigneur. Il est venu pour m'interviewer. Il est parti avec Jésus dans son cœur. Et tout à l'heure, il va venir parce que je lui ai promis le livre, la croisière. Il me semble que je vous envoie encore. Les vieilles têtes. Hein? Voilà. Alors, donc, je voudrais tout simplement vous dire, frères et sœurs, copions sur l'Église primitive. L'Église va continuer, n'est-ce pas? Alors, on pourrait dire encore quelque chose sur le zèle aveugle de Saul, mais le temps ne me le permet pas. Donc, je voudrais juste consacrer les derniers moments au chapitre 8, ministère de Philippe. Alors, ça, c'est une visite chez les voisins. Non, c'est encore. Non, pardon. Voilà. OK. Une visite chez les voisins antipathiques. Alors, évidemment, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va le voir dans un instant. Mais tout d'abord, le Philippe que vous trouvez dans le chapitre 8, ce n'est pas un des 12 apôtres, là aussi nous avons un Philippe, mais c'est l'un des 7 diacres du chapitre 6 des Actes des Apôtres. Et en acte 21, ce Philippe est appelé Philippe l'évangéliste. Alors nous constatons quelque chose là, quelque chose d'intéressant. Il est établi diacre, et maintenant, il a un des 5 ministères d'Éphésiens, 4, verset 11. Autrement dit, c'est comme s'il est monté en grade, hein, on pourrait dire. Autrement dit, il est entré dans sa véritable vocation. Et frères et sœurs, Dieu peut faire de même pour nous. Il peut nous pousser en avant et vraiment faire découvrir ce qu'il a réellement déposé, investi en nous. Mais ce qui est surtout important, frères et sœurs, c'est que nous connaissions nos talents et nos dons et que nous les investissions. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Pourquoi cette question de visite chez le voisin antipathique? C'est parce que vous savez, certainement sans aucune exception ce matin, qu'il n'y avait pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Et ils vivaient comme chiens et chats. Alors, je ne sais pas qui étaient les chiens et qui étaient les chats, mais de toute façon, donc, il n'y avait pas de contact entre eux. Et vous savez, appeler un juif un samaritain, comme les juifs l'ont fait par rapport à Jésus, c'était une insulte, juste pour vous montrer que les samaritains étaient méprisés. Mais l'évangile enlève ses frontières, ses limites. L'évangile anéantit le racisme. Alléluia. Oui, l'évangile ouvre les portes. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors, nous constatons effectivement, nous devons aussi avoir un cœur pour ceux qui, naturellement, nous seraient antipathiques. J'ai un voisin qui aime la musique. mais surtout, il aime la musique fort, forte. Il pense que tout le monde aime ses choix. Avant qu'il se trompe d'ailleurs. Mais donc, alors je peux vous dire récemment, à 22 heures encore, c'était la musique à fond. Alors, on pourrait dire, il pourrait être pour moi antipathique. Mais juste samedi dernier, je passe devant. Je viens de ma marche. Et il me voit, il m'appelle. Il était en train de jouer au domino avec sa mère et son oncle. Il m'a même invité à participer. Oh, ce n'était pas le moment pour moi. Et il a dit, ma maman m'a dit que tu es pasteur. Et pour faire une longue histoire courte, il voulait savoir plus. J'ai pris rendez-vous avec lui. Lundi, une heure avec lui. Et je lui ai donné l'évangile. Alors il a dit, je ne suis pas encore vrai. Je me suis souvenu de la parabole du Seigneur quand il dit, quand tu veux construire une tour, tu dois tout d'abord t'asseoir, n'est-ce pas? Écoute, compter les frais. Mais hier, il m'a appelé de nouveau, avant-hier. Et il m'a dit, nous devons de nouveau parler ensemble. Je suis en train de faire des bêtises. Alors, autrement dit, l'évangile peut le garder aussi. Peut faire des bêtises, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur pour ce contact. Et par ce contact, j'ai aussi eu un contact avec son neveu. Et j'ai pu lui donner de la littérature et le Nouveau Testament. Alors, juste pour vous dire, Philippe, qu'est-ce qu'il fait là, Sarah? Il prêche le Christ. Autrement dit, il prêche l'évangile. Parce que Jésus, c'est le centre de l'évangile. Vous enlevez Jésus de l'évangile et il ne vous reste plus rien, n'est-ce pas? C'est lui le centre. Et la Bible nous montre la réaction à cette prédication qui est accompagnée de miracles et de guérisons. Lisez avec moi encore les chapitres, les versets 6 et 7 de notre chapitre 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et le résultat, comme nous l'avons déjà constaté, il y eut une grande joie dans cette ville, parce que l'évangile, c'est un évangile qui sème la joie. Ce n'est pas une affaire triste, mais c'est un sujet de joie. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, moi je dis que si nous voulons que l'Église continue, nous avons besoin une démonstration de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Et je voudrais juste vous parler du monde évangélique qui donc est divisé en deux camps. Alors nous avons ceux que nous appelons les cessationnistes et puis nous avons les continuationnistes. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous avez les évangéliques qui disent Dieu ne fait plus de miracles. Il ne guérit plus. Nous avons les médecins, ils disent que les dons spirituels ne sont plus d'actualité, le baptême du Saint-Esprit n'est plus d'actualité, nous ne pouvons plus entendre Dieu nous parler directement parce que nous avons la parole de Dieu. Donc ça, ce sont les cessationnistes. Et puis vous avez les pentecôtistes, plein d'évangiles, les charismatiques, ils disent non, Dieu opère toujours des prodiges parce qu'il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? Et frères et sœurs, les statistiques montrent juste le limite à la France qu'un grand nombre se disent athées ou sans foi. Et ce dont ils ont besoin nécessairement, de manière indispensable, c'est une démonstration de la puissance de Dieu si nous voulons les gagner pour le Seigneur. Alors, je bénis le Seigneur pour les miracles qu'il fait encore aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés ici, je vais vous donner juste deux exemples. Je retourne au début, 67. Nous sommes dans une toute petite salle. Il y a un couple d'un certain âge qui nous a rejoints pendant un certain temps. Ils ont amené une vieille dame avec sa petite fille, 7 ans peut-être, dont les jambes étaient recouvertes d'un genre d'ulcère. Demandons la prière. Nous avons prié. Une semaine plus tard, elles étaient de retour. Les jambes de la fille étaient complètement guéries. Ce qui a amené la conversion de la grand-maman. Je pense à notre première campagne d'évangélisation sur la savane. C'était un phénomène. C'était quelque chose de nouveau. Et vous savez, il y avait une dame qui était venue pour vendre ses cacahuètes, ses sucreries, etc. Elle s'est dit, il y a du monde, je veux faire des affaires. Et elle a fait l'affaire de sa vie parce qu'elle a trouvé Jésus et elle a amené sa fille adulte qui était malade. Elle lui en a parlé et on a prié avec Mignonette. Il y a peut-être quelqu'un qui se souvient encore de Mignonette. Et Mignonette a été guérie et les deux personnes ont rejoint la jeune église de Fort-de-France. Mignonette est devenue vraiment un pilier de cette église. C'était parce qu'il y avait une démonstration de la puissance de Dieu. Je bénis le Seigneur pour les cessationnistes qui changent de camp et qui deviennent des continuationnistes. Je voudrais mentionner deux. Jack Deal, qui était professeur au séminaire théologique de Dallas, c'est le haut lieu de l'évangélicalisme américain, donc cessationniste jusqu'au bout des ongles. Et il a écrit deux ouvrages intitulés Surpris par l'Esprit de Dieu et surpris par la voix de Dieu. Autrement dit, ce qu'il enseignait avant, eh bien donc il a dû se rétracter parce qu'il a entendu la voix de Dieu et il a été rempli du Saint-Esprit. Et puis je pense au docteur Willem Ouweneel, c'est un théologien hollandais. J'avais son ouvrage sur l'occultisme entre mes mains. Et dans cet ouvrage, il dit que le parler en langue est diabolique. Figurez-vous, le docteur Ouweneel a écrit le premier ouvrage sur la théologie pentecôtiste. Et là, il tient une autre tonalité, parce que lui-même a été baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il parle en langue et il croit au miracle. Il est passé du haut en bas là, et ça me fait plaisir de le savoir. Frères et sœurs, nous avons besoin que l'Église avance, qu'elle continue, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous sommes prêts à souffrir quand il faut souffrir? Est-ce que nous sommes prêts à exploiter même l'opposition de la part de l'ennemi pour remporter les victoires? Est-ce que nous voulons être les témoins qui parlent du Seigneur autour d'eux et qui goûte à la joie d'amener une âme à Christ? Je souhaite que vous puissiez tous le faire. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui n'ont jamais amené une âme à Christ, qui voudraient le faire. Je voudrais d'abord chanter un chant avec vous. Alors, j'avais prévu, l'Esprit du Seigneur est sur nous, mais je reviens sur celui que nous avons chanté tout à l'heure. Et Marie, si tu viens me joindre afin que nous... Alors, donc, est-ce que c'est possible de me remettre sur l'écran? C'est « Nous tiendrons ». Parce qu'au fond, nous avons là le programme des actes. Nous tiendrons ferme. Et puis le Seigneur nous a amenés à porter du fruit. Tu nous gardes. Tu nous tiens. Et tu permets que ton Église avance. Oui, Seigneur, nous voulons être ces témoins que tu oins de ton esprit, que notre témoignage ait un impact sur ceux à qui nous nous adressons, à qui nous pouvons parler de toi. Seigneur, nous voulons vraiment voir une démonstration de ta puissance, tout à nouveau. Nous savons que tu n'as pas changé. Tu as dit toi-même, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et Seigneur, tout comme tes promesses s'accomplissent, eh bien, ta puissance libératrice, guérissante, elle est aussi encore là. Et ce matin, nous voulons te louer pour ta grâce que tu vas manifester. Alléluia. Et je voudrais maintenant prier particulièrement pour toi, qui n'as jamais eu le privilège, la joie d'amener une âme à Christ. Pour différentes raisons peut-être. Parce que tu es timide, tu n'oses pas t'adresser à quelqu'un que tu ne connais pas ou tu ne veux pas parler du Seigneur. Mais ce matin, nous voulons prier pour toi afin que toi aussi, tu deviennes un témoin libre, hardi, un véritable évangéliste, un porteur d'une bonne nouvelle. Et que tu aies la joie, le privilège d'amener les hommes et les femmes perdus au salut en Jésus-Christ. Seigneur, Nous élevons ensemble nos cœurs vers toi. Nous voulons être cette Église qui continue, cette Église qui avance et cette Église qui va aussi grandir numériquement. Seigneur, nous voulons voir des Martiniquais et des Martiniquaises se tourner vers toi. Et tu te sers de tes enfants, Père. Tu nous oins comme nous venons de le chanter. Alors, je voudrais maintenant prier pour toi, qui n'a pas encore eu la joie de te reproduire en quelqu'un. Que le Seigneur t'accorde cette joie très, très prochainement. Et qu'il te libère. Et que tu puisses devenir un témoin hardi, sans peur, sans crainte. Et que vraiment, par tes paroles, tu puisses voir des vies sauvées, changées, transformées. Grâce à ton témoignage, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, que vraiment le Seigneur te remplisse de sa force, de son courage, de sa hardiesse, dans le nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais aussi prier, Seigneur, pour que tu permettes que, si nous devons souffrir d'une manière ou d'une autre, à cause de ton nom, que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts à souffrir pour ton nom. Que nous n'ayons pas peur, Seigneur, parce que tu donnes la grâce de supporter ce qui nous arrive. Au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais vous bénir, mes frères et mes sœurs, et que vraiment les actes des apôtres soient pour vous bien plus qu'un livre avec de belles histoires, mais qui ne sont plus d'actualité. Je prie pour que pour chacun d'entre nous, les actes des apôtres soient notre manuel et que nous pouvons nous laisser diriger et inspirer par ce que nous y trouvons. Oui, Père, je comprends qu'en Église du 21e siècle est en train d'écrire le dernier chapitre de ce livre. Et nous voulons être des auteurs attentifs. Bon, merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors.